L'entreprise cabinet dentaire Jean-Paul Vassal par Guillaume le 21 mai 2017. Bonjour à tous. Voilà une nouvelle synthèse d'un livre dédié au cabinet dentaire. L'entreprise cabinet dentaire Jean-Paul Vassal, EDP Sciences 2012. Introduction. 90% des chirurgiens dentistes français, comme ceux exerçant dans l'UE, exercent en libéral, du latin liberalis, qui signifie noble, honorable et généreux de caractère, et de liberalitas, qui signifie dans, présent, et leur situation est enviée, particulièrement par rapport au salariat, revenu, dynamisme des pratiques professionnelles, liberté d'installation, de prescription, entente directe entre patients et praticiens, paiement des honoraires directement aux praticiens, confère charte de la Confédération des syndicats médicaux français en 1927. Nous nous intéresserons donc ici uniquement à l'exercice libéral. 1. L'installation d'un cabinet dentaire, la liberté d'installation, en France. Seuls interdits, ne pas s'installer dans un immeuble où exerce déjà un confrère, là où s'exerce une clause de non-concurrence signée avec un confrère ou dans un local commercial ou d'apparence commerciale. Cette grande liberté n'existe pas toujours ailleurs. Le Conseil départemental de l'ordre n'a aucune autorisation à donner. Les zones les plus attractives sont les grandes métropoles et le sud de la France. La liberté d'installation en Europe, la liberté d'établissement, c'est l'un des principes fondamentaux de l'Union européenne. Elle s'accompagne de la libre circulation des praticiens, directive du 7 septembre 2005. Seule limite en France, la moralité et la connaissance du français. Même les cabinets secondaires sont autorisés. Cette liberté concerne aussi les patients. La liberté du patient européen. Depuis le 28 février 2011, la libre circulation des patients dans l'Union européenne a été approuvée par le Conseil de l'Union européenne. Les patients sont remboursés à hauteur de ce qu'ils auraient été remboursés dans leur état d'origine. Les États peuvent rembourser directement les praticiens et les États doivent mettre en place des points d'information pour les patients. La libre prestation de services LPS. C'est l'exercice temporaire ou occasionnel de la profession. Il faut faire la démarche auprès du Conseil national de l'ordre. Définition juridique du cabinet dentaire. Sur le plan matériel, c'est le local dans lequel les patients sont reçus et reçoivent les soins. Sur le plan juridique, c'est un ensemble des droits et obligations propres à l'exercice défini par l'arrêt de principe du 7 novembre 2000. Les précautions à prendre en début d'exercice. Il s'agit d'une entreprise à gérer. Les dettes professionnelles peuvent être fatales. Le choix du régime matrimonial au moment du mariage. Les implications de ce choix. Contrat de mariage, séparation de biens ou régime de participation aux acquis sont à envisager. Tout changement de régime doit se faire chez un notaire et être homologué par le tribunal de grande instance du domicile des époux. Rappel des règles du divorce. La loi du 26 mai 2004 s'applique depuis le 1er janvier 2005. Le divorce peut être prononcé en cas de consentement mutuel, une seule audience, pas de délai de réflexion, d'acceptation du principe de la rupture du mariage. Le juge tranche les divergences, d'altération définitive du lien conjugal, 2 ans de séparation entre les époux ou de faute, violence conjugale par exemple. Des passerelles existent entre les différents cas. Les conséquences du divorce, il faut les prévoir soi-même autant que possible. Loi du 26 mai 2004 est à l'amiable. Prestations compensatoires et libéralité. Dissocier des torts sont prévus. Un nouveau statut pour réduire le risque financier engendrée par l'exploitation du cabinet dentaire, le IRL. Ce statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée est possible depuis le 1er janvier 2011. Il protège le patrimoine de l'entrepreneur en séparant le personnel du professionnel. Si on choisit ce statut, il faut simplement en informer le conseil départemental et le mentionner sur ses imprimés professionnels. Les avantages de l'EIRL: la responsabilité est en principe limitée, le formalisme est réduit, plusieurs activités peuvent être protégées, la déclaration d'affectation peut évoluer, on peut opter pour l'impôt sur les sociétés, les biens sont protégés en cas de mariage sous le régime de la communauté. Les limites de l'EIRL: le formalisme est plus important qu'avec l'entreprise individuelle. Il faut faire une déclaration d'affectation, éventuellement accompagnée d'un rapport d'expert sur les biens et d'un acte notarié, et fournir l'accord du conjoint ou du co-indivisaire. Il faut ouvrir un compte bancaire autonome pour l'activité et respecter les règles de la comptabilité commerciale. L'EIRL permet un accès au crédit et offre des garanties, et ses patrimoines peuvent être décloisonnés en cas de manquement aux obligations fiscales, mais ce régime expose aussi au redressement et à la liquidation judiciaire. Au niveau des cotisations sociales, ce régime n'est pas si favorable qu'on le croit. La déclaration d'insaisissabilité de ses biens immobiliers: on peut déclarer insaisissable sa résidence principale, l'exercice au sein d'une société d'exercice libéral. La SELARL est une SARL, mais la responsabilité est tout de même engagée si on a disposé des biens de la personne morale comme des siens, si on a poursuivi une exploitation déficitaire, si on a détourné ou dissimulé une partie de l'actif, ou augmenter frauduleusement le passif de la personne morale. Ce statut est à déconseiller en cas de difficultés financières. Les formalités administratives au moment de l'installation. L'inscription au tableau de l'ordre. Elle est obligatoire sous peine de 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende. Article L4161-2 du Code de santé publique. La demande doit être accompagnée, entre autres, de la copie du diplôme de docteur en chirurgie dentaire, d'une déclaration sur l'honneur certifiant qu'aucune procédure pénale ou disciplinaire n'est en cours à l'encontre de praticiens et d'une preuve, certificat de radiation ou déclaration sur l'honneur, que le praticien n'est inscrit à aucun tableau. Pour les praticiens étrangers, un certificat de bonne connaissance de la langue française est demandé. Si le dossier est complet, le conseil départemental, utilisant le répertoire partagé des professionnels de santé, le RPPS, outil d'identification pérenne et fiable des professionnels de santé, guichet unique pour toute inscription ou modification, statue sur la demande dans les 3 mois. La décision est notifiée en courrier recommandé, avec accusé de réception. Elle est communiquée au Conseil national de l'ordre et au préfet de département. Le praticien obtient sa carte de professionnel de santé, CPS, sur demande auprès de son conseil départemental, et c'est l'agence régionale de santé, ARS, qui la lui envoie. La CPS est réservée aux professionnels de santé régis par un ordre et aux auxiliaires médicaux réglementés par le Code de la santé publique. Elle permet l'accès sécurisé à l'information médicale, la sécurité des messageries électroniques et des données médicales, la communication entre professionnels de santé, la signature électronique des documents médicaux ou administratifs, feuilles de soins électroniques, l'accès à des réseaux professionnels d'échange d'informations, l'accès à des locaux ou équipements sécurisés de soins. L'enregistrement du diplôme, il est assuré par le conseil départemental au moment de l'inscription. Il concerne article L4113-1 du Code de la santé publique, les titulaires des diplômes requis pour l'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme, les diplômés de moins de 3 ans qui n'exercent pas, les internes en médecine ou en odontologie, l'affiliation à la CPAM. Dans les 8 jours suivant l'installation, le libéral doit s'inscrire comme employeur ou travailleur indépendant auprès de la CAF. Dans les 30 jours, il doit s'inscrire à la Caisse régionale d'assurance maladie, l'URSSAF ou le CFE, centre de formalité des entreprises, peut parfois simplifier ses procédures, le contacter. Copie du diplôme, attestation de l'inscription au tableau du Conseil départemental de l'ordre, justificatif de l'enregistrement du diplôme à l'ARS, justificatif de la spécialité éventuelle, notification de l'éventuelle installation radiologique sont, entre autres pièces, demandées. Le conventionnement. La convention nationale est un contrat négocié par les syndicats de la profession et les caisses, puis approuvé par l'État, qui lie les caisses d'assurance maladie et les chirurgiens-dentistes qui l'acceptent. Les conventions sont applicables automatiquement aux chirurgiens-dentistes qui s'installent pour la première fois en exercice libéral. Pour ceux qui sont déjà conventionnés, la convention s'applique jusqu'à ce qu'ils aient déclaré leur déconventionnement à la CPAM. L'affiliation à la caisse de retraite. Elle doit se faire à la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes CAR-CDSF dans le mois qui suit l'installation. Les cotisations sont obligatoires. Des indemnités journalières en cas d'arrêt de travail peuvent être versées. L'assurance responsabilité civile professionnelle. La loi Kouchner du 4 mars 2002 l'a rendue obligatoire. Le défaut d'assurance expose à des sanctions disciplinaires, interdiction d'exercer et pénale, 45 000 euros d'amende. Choisir de préférence une compagnie d'assurance spécialisée dans la responsabilité médicale. En chirurgie dentaire, les dommages concernent plus le coût de la reprise des travaux que le pretium doloris, préjudice d'agrément. Les autres assurances, facultatives mais indispensables, l'indemnité journalière de la CARCDSF, n'intervenant qu'à compter du 91e jour d'arrêt de travail, il faut souscrire une autre assurance pour les 3 premiers mois. Pensez aussi à assurer la perte d'exploitation en cas d'inondation du cabinet, par exemple. 2. L'embauche d'un salarié. En 2008, on comptait 46 576 salariés du cabinet dentaire pour 21 932 chirurgiens-dentistes employeurs sur 39 886 praticiens actifs. La moitié des praticiens travaillent toujours seuls, une exception en Europe. Le respect du Code du travail et de la convention collective. Tout employé doit être déclaré à l'URSSAF dans les 8 jours précédant la date de l'embauche. Une visite médicale est obligatoire. Elle le sera ensuite tous les 2 ans. De même que la souscription d'une retraite complémentaire auprès de l'AG2R. Il faut respecter les dispositions de la convention collective. L'assistante dentaire qualifiée ou stagiaire. La profession d'assistant dentaire est définie par l'article 2.4 de la convention collective qui détaille ses compétences techniques, relationnelles et administratives. L'aide dentaire qualifiée ou stagiaire, il remplit des fonctions de réceptionniste, des fonctions techniques, relationnelles ou administratives, mais n'a pas accès à la salle de soins pendant les soins. Aide opératoire et assistance au fauteuil sont réservées aux seuls assistants. Réceptionniste et personnel d'entretien, aucune formation n'est obligatoire. Les modalités de l'embauche, attention aux exigences discriminatoires dans l'annonce, par exemple sur le sexe, demander diplôme et référence professionnelle, une période d'essai professionnel de quelques heures non rémunérées mais indemnisées des frais de transport est possible. Un contrat doit ensuite être rédigé avec soin. Le contrat à durée indéterminée, il doit obligatoirement être écrit à article 3-1 de la convention collective des cabinets dentaires et délivré aux salariés dans les 2 mois. En France, la délivrance de feuilles de paie peut néanmoins suffire. Sur le contrat de travail doivent figurer l'identité des 2 parties. L'emploi occupé est défini par référence à la convention collective applicable avec date et lieu d'obtention du certificat, titre ou diplôme, la nature du contrat, CDI, CDD, le lieu et les horaires de travail, la date de début d'activité, le montant du salaire brut et de la base horaire de travail, la mention de la prime d'ancienneté et son mode de calcul, la durée du travail, celle de la période d'essai, les conditions de la rupture et la durée du préavis, les repos hebdomadaires et la durée des congés payés, les obligations éventuelles, secret professionnel obligatoire, article 3-12 de la convention collective et la référence au régime de retraite et de prévoyance applicable au cabinet dentaire, l'obligation de loyauté est inhérente à tout contrat de travail. Le contrat à durée déterminée, il sert à remplacer un salarié absent, suspendu ou en attente d'arrivée, à remplacer un libéral ou un associé non salarié d'une société civile professionnelle, civile de moyen ou d'exercice libéral, à remplacer un salarié passé provisoirement au temps partiel ou à faire face à un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise. Il doit être rédigé, signé et délivré aux salariés dans les 2 jours suivant l'embauche. Renouvellement compris, il ne peut, hors cas particulier, excéder 18 mois. La résiliation du CDD, elle s'opère uniquement en cas d'accord des parties, force majeure, faute grave ou lourde, justification par le salarié d'une embauche en CDI. Sinon, des dommages et intérêts sont à verser au salarié. Les conséquences financières d'une rupture injustifiée. Dans le cas d'une rupture injustifiée de l'employeur ou de faute grave, elle se monte au montant des rémunérations brutes que le salarié aurait dû percevoir jusqu'au terme de son contrat. Le préjudice moral du salarié est lui aussi indemnisé. Si c'est le salarié qui rompt, il peut de même payer des indemnités à l'employeur à condition que celui-ci prouve son préjudice. Le contrat de professionnalisation, d'une durée de 24 mois, il s'adresse aux jeunes de 16 à 25 ans. La rémunération se fait en pourcentage du SMIC, aux demandeurs d'emploi de plus de 26 ans, rémunération au-dessus du SMIC et à 85% du salaire minimum conventionnel et aux bénéficiaires de certaines allocations ou contrats. Des exonérations de cotisations patronales sont accordées à l'employeur. La période d'essai, selon l'article L1221-19 du Code du travail, elle est de 2 mois pour les ouvriers et les employés, de 3 mois pour les agents de maîtrise et les techniciens et de 4 mois pour les cadres. Elle n'est renouvelable qu'une fois. Concernant les employés des chirurgiens dentistes, elle est de 2 mois. Les assistants collaborateurs étant considérés comme des cadres, la période d'essai est donc de 4 mois. Lorsqu'il y a rupture du contrat pendant la période d'essai, un délai de prévenance de 24 heures à 1 mois selon le temps que le salarié a passé dans l'entreprise est à respecter. La modification du contrat de travail, l'accord du salarié est indispensable. La jurisprudence distingue donc 2 types de modification. Il y a modification quand le changement affecte un élément essentiel du contrat, rémunération, durée ou lieu du travail. Le salarié peut se considérer comme licencié si une modification lui est imposée d'emblée, même si l'employeur revient sur cette modification. À titre disciplinaire, les modifications sont interdites, mais si elles sont faites dans les règles, le salarié ne peut les refuser sous peine de commettre une faute grave. Nature de la modification, elle est appréciée par les tribunaux au cas par cas. Les changements de lieu de travail au sein d'une même agglomération, comme les affectations à d'autres postes au sein d'un même établissement, de même que les modifications mineures ou ponctuelles, ne sont pas considérées comme des modifications essentielles. La procédure, toute modification collective des conditions de travail, doit être communiquée au comité d'entreprise, à l'inspection du travail, etc. Si les motifs sont économiques, il faut respecter les formes et délais prévus par l'article L1222-6 du Code du travail, lettre de notification envoyée en recommandé avec avis de réception. On considère que le salarié est informé après un mois sans réponse. Si le salarié refuse la modification, l'employeur peut le licencier. Les cas régis par la loi. Les salariés de retour de congé de maternité ou parental, de congé pour création d'entreprise, pour maladie professionnelle ou accident du travail, ne doivent voir ni leur fonction, ni leur rémunération, ni leur qualification faire l'objet de modifications à leur retour. La résiliation des contrats de travail, la démission, c'est le cas plus fréquent, juridiquement, ne se présumant pas, elle doit résulter d'une volonté claire, sérieuse et non équivoque du salarié de mettre fin au contrat de travail. Le salarié peut démissionner à tout moment, après un préavis, sans procédure, sans motif et sans autorisation de l'employeur. Elle est cependant considérée comme abusive si le salarié démissionne alors que d'importants frais viennent d'être engagés pour lui, par exemple pour sa formation dans l'entreprise, ou si sa présence était cruciale au moment de sa démission. La rupture conventionnelle, datant de 2011, elle permet aux salariés de bénéficier d'allocations chômage. Les conditions à respecter, la rupture conventionnelle résultant d'une convention qui atteste de leur consentement mutuel, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle impose une indemnité de rupture au moins égale à l'indemnité légale de licenciement, rupture bénéficiant des conditions d'exonération sociale et fiscale de celle-ci, ainsi que d'une procédure destinée à garantir la liberté du consentement des parties. Les dispositions concernant le licenciement économique ne s'appliquent pas à ce type de rupture qui n'a pas non plus vocation à s'appliquer à tous les cas de rupture amiable. Quels sont les salariés concernés? Tous les salariés sont concernés, même les salariés protégés, à l'exception des femmes enceintes et des salariés accidentés du travail ou reconnus inaptes. Les formalités à respecter, la loi, les parties au contrat conviennent du principe d'une rupture conventionnelle lors d'un ou plusieurs entretiens, est flou. On conseille de s'y prendre bien à l'avance et de mener deux entretiens, un entretien de négociation portant sur les modalités pratiques, date de la rupture, indemnité, droit à la formation, etc. et un entretien de signature. La signature est suivie d'un délai de rétractation à opérer par lettre de 15 jours. L'homologation administrative. Au bout du délai de rétractation, une demande d'homologation avec un exemplaire de la convention de rupture est adressée à la DDT-UFP. Au bout de 15 jours, cette homologation est réputée acquise. En cas de refus, on peut saisir le conseil de prud'homme. La date de la cessation du contrat de travail, au plus tôt, c'est le lendemain du jour de l'homologation. Le licenciement, son motif doit être réel, sérieux ou légitime. Les motifs légitimes du licenciement, la cause du licenciement est jugée réelle quand elle repose sur des faits précis, objectifs et matériellement vérifiables. Elle est sérieuse quand le motif atteint un certain niveau de gravité. Le licenciement pour motif non disciplinaire peut se faire en cas d'insuffisance de résultats, d'incompétence, de perte de confiance en le salarié, de mésentente ou d'absentéisme. Dans ces cas, le salarié a droit à l'indemnité légale de licenciement, au préavis et à l'indemnité compensatrice de congés payés. Le licenciement pour motif disciplinaire pour faute prive le salarié de ses indemnités de licenciement et de préavis. Si la faute est grave et celle de congés payés, si la faute est lourde, la faute lourde se différencie de la faute grave en ce qu'elle comprend une intention de nuire à l'entreprise. Le licenciement pour motif économique doit résulter de difficultés économiques sérieuses de l'entreprise devant entraîner la suppression du poste du salarié licencié qui doit, dans la mesure du possible, être reclassé. Il est interdit de licencier des salariés pour des faits relevant de la vie privée, s'exprimant sur les conditions de travail, quittant leur poste en raison d'un danger grave, refusant de travailler à temps partiel alors qu'ils sont employés à temps plein ou refusant de subir le harcèlement. La procédure de licenciement, elle comprend une lettre recommandée comportant l'énoncé de la possibilité de se faire assister par un conseiller pour l'entretien et le moyen d'en contacter un ou remise en main propre contre des charges, un entretien au moins 5 jours ouvrables après la réception de la lettre. Au moins 2 jours ouvrables après l'entretien, l'employeur peut licencier le salarié via une lettre comportant les motifs du licenciement. Le contrat de sécurisation professionnelle visant à accompagner le salarié vers le retour à l'emploi, il comprend des allocations et un accompagnement. Le contrat de sécurisation professionnelle CSP concerne les entreprises de moins de 1000 salariés. Le CSP doit être proposé lors de l'entretien préalable de licenciement. En l'absence de CSP, l'employeur doit verser à l'UNEDIC 2 mois de salaire brut et c'est Pôle emploi qui propose un CSP aux salariés, portant alors la contribution de l'employeur à 1 mois supplémentaire. Le salarié a 21 jours pour accepter un CSP. Son absence de réponse est considérée comme un refus. S'il accepte, son contrat est rompu. Il n'effectue pas son préavis, ne touche pas l'indemnité de préavis, mais touche les indemnités légales ou conventionnelles de licenciement. Le licenciement pour inaptitude, en cas de maladie professionnelle, d'absence d'au moins 8 jours suite à un accident du travail, 21 pour une maladie ou un accident non professionnel, de retour de congé de maternité, d'absence répétée pour raison de santé, le salarié peut être licencié pour inaptitude. La visite de reprise doit avoir lieu au moins 8 jours avant le jour de la reprise. La déclaration d'inaptitude, elle est faite par le médecin du travail après l'étude du poste et le passage par le salarié de 2 examens médicaux successifs espacés de 2 semaines. La décision peut faire l'objet d'un recours gracieux. Licenciement et reclassement doivent intervenir dans le mois suivant la seconde visite. Sinon, l'employeur doit reprendre le versement intégral du salaire. La recherche d'un reclassement. Le licenciement n'est qu'une solution de secours. Le reclassement est le principe. Il est obligatoire, même en cas d'inaptitude totale à tous les postes, pour tous les contrats et même en période d'essai. Les délégués du personnel doivent être consultés. La rupture du contrat de travail, il peut s'agir d'un licenciement, d'une mise à la retraite ou d'une rupture anticipée d'un CDD pour inaptitude physique d'origine professionnelle, mais pas d'une rupture de commun accord ou de résiliation judiciaire. L'employeur doit respecter la procédure et verser les indemnités prévues. La situation du salarié en CDD déclaré inapte est particulière selon que l'inaptitude a ou non une origine professionnelle. Les conséquences d'un licenciement non justifié pour inaptitude. La sanction diffère selon que l'inaptitude est d'origine professionnelle, réintégration du salarié apte ou indemnité de 12 mois de salaire sans condition ou non, application du droit commun du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le départ à la retraite. Le salarié peut soit partir en retraite, soit être mis à la retraite. Le départ volontaire à la retraite. Il diffère de la démission. Il y a des conditions d'âge, sauf aménagement particulier, permettant au salarié la liquidation de la pension. Des procédures, surtout des préavis, de 1 à 2 mois selon l'ancienneté dans l'entreprise, et des indemnisations, celles prévues par la convention collective, le contrat de travail ou l'indemnité légale. Le salarié a aussi droit à une indemnité compensatrice de congés payés et de préavis à respecter. La mise à la retraite de l'employeur, elle peut intervenir d'office si le salarié a plus de 70 ans. Aucune procédure particulière n'est requise. Avant cet âge, l'accord du salarié est nécessaire. Si les conditions de la mise à la retraite, âge, ne sont pas respectées, le salarié peut invoquer un licenciement abusif. Le silence du salarié vaut consentement. 3. Le local et le matériel. Le praticien doit être propriétaire, locataire ou sous-locataire de son local et de son matériel. Il doit aussi avoir la maîtrise matérielle et juridique de son fichier de patient. Le local ne doit pas avoir d'apparence commerciale, ni entrée libre, ni étalage ne sont tolérés. Le local ne doit pas non plus se situer dans un immeuble ne comprenant que des locaux à usage commercial. Le conseil départemental peut faire des contrôles. Les affichages obligatoires. Les modèles de déclarations obligatoires à afficher sont sur le site de l'Ordre des chirurgiens dentistes. L'affichage des honoraires, il doit se faire en salle d'attente et être visible par patient et accompagnateur. Les sanctions, au premier manquement, on risque un rappel de réglementation. Au second, passé un délai de 15 jours après le rappel, les représentants de l'État départementaux notifient les manquements et fixent le montant de l'amende, 3 000 euros maximum. Le professionnel peut s'expliquer dans un délai de 15 jours. L'affichage des dispositions du Code du travail. Il suffit de compléter la fiche éditée par le Conseil national avec les coordonnées de l'inspection du travail, de la médecine du travail et des services d'urgence, et avec le détail des horaires de travail et du jour de repos hebdomadaire, la conformité des installations électriques. Le site intranet de l'ONCD donne tous les renseignements utiles. Les obligations varient selon que l'on emploie ou non des salariés. L'auteur de l'installation électrique doit fournir à EDF un certificat de conformité. Disponible auprès du consuel, les principaux organismes à créer pour vérifier les installations sont AIF Service, APAV, Veritas CEP, INF, Socitec. L'article R.4127-278 du Code de la santé publique, avec la clause de non-rétablissement, il précise qu'un praticien ne peut, sauf accord avec le confrère, s'installer dans un immeuble où exerce déjà un confrère, alinéa 1, ou quitter par un confrère depuis moins de 2 ans, alinéa 2. Le conseil départemental n'agit qu'au regard des besoins de la santé publique, alinéa 3. Le silence du conseil départemental vaut autorisation 2 mois après la demande, alinéa 4. La règle posée par le premier alinéa. L'article 90 de déontologie médicale précise ce qu'il est entendu par immeuble. Il s'agit d'un bâtiment à une seule entrée qui ne communique pas avec celui d'à côté et qui a sa propre adresse postale. Le Conseil départemental, national et d'État tranche les cas litigieux. la règle posée par le deuxième alinéa, le but est probablement de protéger un cabinet existant ayant déménagé, les patients pouvant continuer par habitude à se rendre à l'ancienne adresse. Les sociétés civiles de moyens, SCM, posent un cas particulier. Lorsqu'un associé quitte un praticien, l'article R.4127-278 empêche ce praticien d'en recruter un autre pendant 2 ans. Des dispositions préalables écrites peuvent éviter des conséquences financières désastreuses pour le praticien se retrouvant seul. Les conseils départementaux et nationaux peuvent proposer des portes de sortie. La règle posée par le troisième alinéa, l'appréciation est différente selon que l'on se trouve dans une grande ville où les besoins en santé publique sont satisfaits ou en pleine campagne. La règle posée par le quatrième alinéa. Entre cet alinéa, l'article R.4127-278 et les recours possibles, il apparaît que cette mesure de simplification administrative complique en réalité les clauses. Le règlement de copropriété. C'est le corps des règles qui régit les immeubles en copropriété, c'est-à-dire les immeubles qui n'appartiennent pas à une propriétaire unique, mais à plusieurs propriétaires et dont chacun est titulaire d'un lot comprenant la propriété exclusive d'une partie privative, en général un appartement, et une quote-part dans la copropriété des parties communes, l'ensemble étant doté d'une organisation, syndicat regroupant tous les copropriétaires et éventuellement d'un conseil syndical. Il faut consulter le règlement de copropriété, la transformation d'un local pour un usage professionnel. Elle est délivrée par le maire de la commune. Elle concerne les communes de plus de 200 000 habitants, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne. La date de référence de l'usage, usage d'habitation est appréciée par référence à la situation de fait au 1er janvier 1970. L'autorisation est personnelle. L'autorisation de changement d'usage du prédécesseur ne suffit pas. L'acquéreur doit en obtenir une à son nom. Par contre, des compensations, transformation d'habitation en locaux professionnels par exemple, sont parfois offertes par l'administration. Les arrêtés municipaux. Dans les communes de plus de 200 000 habitants, ainsi que dans les départements 92, 93 et 94, le maire arrête les conditions de délivrance des autorisations et détermine les compensations par quartier ou arrondissement. En cas d'usage mixte, logement et activité, le maire peut, sous condition, autoriser l'activité dans une partie du local d'habitation. Les sanctions, elles sont lourdes, mais rarement appliquées. L'accessibilité des locaux aux personnes handicapées. Depuis 2015, loi du 11 février 2005, tous les cabinets dentaires doivent être accessibles. Les aménagements effectués, les arrêtés du 1er août 2006 et du 30 novembre 2007 précisent les aménagements effectués, parkings adaptés, mains courantes et sol antidérapant dans les escaliers, sanitaires adaptés. Des dérogations à justifier sont possibles. Les démarches à effectuer. La demande d'autorisation doit être déposée en mairie. Elle est donnée par le préfet ou le maire. Une commission départementale de sécurité et d'accessibilité délivre une dernière autorisation. La demande de dérogation. Elle est à formuler auprès du maire. Les fermetures de cabinets ne sont pas a priori à craindre beaucoup, mais cependant, des cabinets ont déjà été fermés parce qu'ils ne respectaient pas les dispositions de l'autorisation ou restaient non accessibles après le 1er janvier 2015. Le bail du chirurgien dentiste. Il existe 3 régimes juridiques distincts. Les baux mixtes, régis par la loi du 6 juillet 1989,
les baux professionnels et les baux commerciaux, locaux commerciaux professionnels pouvant faire l'objet d'un bail commercial. Les baux mixtes, il s'agit de locaux dont une partie est réservée à l'habitation et l'autre à l'activité. Les règles, elles sont listées dans la loi numéro 89-462 du 6 juillet 1989, loi Méhaignerie. Le décret 87-712 précise, lui, la liste des réparations ayant de caractère de réparation locative. Le décret 87-713 liste quant à lui les charges récupérables sur le locataire. Le congé, le bailleur ne peut donner son congé au locataire que s'il veut vendre, qu'il veut reprendre l'appartement pour y loger, lui ou sa famille, ou qu'il fait état d'un motif légitime et sérieux, loyer trop souvent impayé, tapage, etc. Le locataire est très protégé. C'est un régime sécurisant, mais il oblige à habiter les lieux, ce qui est difficilement compatible avec l'hygiène et la sepsie. Les baux à usage exclusivement professionnel, ils concernent les locaux où s'exercent une ou plusieurs professions, le bail d'une durée minimale de 6 ans à reconduction tacite doit être établi par écrit. Le préavis pour le locataire comme le propriétaire est de 6 mois. Les sous-locations sont un cas à part. Un praticien peut sous-louer une partie de son local professionnel à un confrère sous condition. Les baux commerciaux. Le bail est de 9 ans et le loyer au renouvellement est plafonné. Ce statut est très protecteur, mais aussi complexe, car il diffère beaucoup du bail professionnel. Le locataire ne peut résilier son bail que tous les 3 ans, d'où son surnom de bail 369. Les précautions à prendre en tant que locataire. Le bail doit être librement cessible, cessible sans l'autorisation du propriétaire en cas de vente. Il faut veiller à la conformité des installations électriques et vérifier que le locataire n'aura à sa charge que l'entretien locatif. Il faut aussi éviter de signer la clause selon laquelle il faut remettre les locaux en leur état initial au moment du départ. Si d'importants travaux ont été entrepris, cela aura alors été à fond perdu. Le changement de propriétaire. Le nouveau propriétaire doit respecter les baux en cours. Le locataire en place n'a, hormis 4 cas précis, le bailleur donne congé au locataire dans le cadre d'un bail d'habitation ou mixte. Il vend l'appartement immédiatement après sa mise en copropriété. Il vend dans sa totalité et en une fois un immeuble à usage mixte d'habitation et professionnel de plus de 10 logements. Où le locataire a obtenu que figure dans son bail une clause de préférence, pas de droit de préférence en cas de vente. L'acquisition des locaux professionnels, elle est préférable au statut de locataire, opportunité de l'acquisition. 3 critères sont à retenir, la possibilité de consacrer le local à un usage professionnel, l'accessibilité aux handicapés et la surface. Les modalités de l'acquisition. Les locaux peuvent être intégrés dans le patrimoine professionnel ou privé. L'acquisition à titre professionnel, frais d'acquisition, intérêts d'emprunt, taxes foncières sont déductibles. Le prix d'achat est, lui, amorti. Une exonération pour les biens détenus depuis plus de 15 ans en ce qui concerne les plus-values à long terme relative aux locaux professionnels est accordée. Mais au bout de 5 ans, l'abattement est déjà de 10% par année de détention. Pour les plus-values immobilières, en revanche, l'abattement n'est plus linéaire mais progressif. L'acquisition des murs par une société immobilière. La société civile immobilière, SCI, est intéressante si l'on veut conserver longtemps ou définitivement les murs et les transmettre à ses enfants, est fortement recommandé si le local est utilisé par plusieurs praticiens exerçant ensemble en SCM, SCP, une nouvelle modalité d'acquisition, le démembrement du droit de propriété. Elle est utile en cas d'acquisition des murs par une société civile immobilière, les murs étant ensuite donnés aux praticiens. Lors d'un démembrement de propriété, le droit de propriété est divisé en deux parties, l'usufruit, qui donne le droit d'utiliser, de louer ou d'occuper le bien, et la nue propriété, qui permet de le vendre, pour éviter de faire payer à leurs enfants des droits de succession onéreux sur leurs biens. Les parents peuvent leur en donner immédiatement la nue propriété en conservant l'usufruit jusqu'à leur décès. Pour les enfants, tout dépend alors de la durée de vie de leurs parents, les crédits rentiers. L'acquisition d'un bien immobilier avec démembrement temporaire est plus confortable. L'usufruit est fixé pour une durée convenue à l'avance, souvent 15 ans, et le prix est payé via un prêt à durée fixe. Le praticien ou la SCM jouit du bien sans payer de loyer. Attention, le coût de l'achat de cet usufruit par le cabinet ne doit cependant pas être supérieur au coût du loyer. Le crédit bail immobilier. Il fonctionne comme le crédit bail immobilier ou leasing, ce mode de financement qui reporte le règlement de l'impôt sur les plus-values doit être réservé à des opérations très onéreuses ne pouvant être financées par un crédit classique. Il est déconseillé d'effectuer cette opération à plusieurs, la possibilité d'exercer sur plusieurs sites. L'autorisation d'ouvrir un deuxième site nécessite l'autorisation, délivrée sous 3 mois, du conseil département de l'ordre concerné. Dans les grandes villes, cette autorisation est rarement délivrée. Toute ouverture d'un site distinct du premier est considérée comme exercice annexe et doit faire l'objet d'une demande de dérogation adressée au Conseil national de l'ordre, le plateau technique. C'est ce qui permet les interventions ou investigations pratiquées pour des raisons de sécurité dans un environnement médical adapté ou nécessitant l'utilisation d'un équipement matériel lourd. Il n'y a pas de distinction entre les plateaux techniques, prolongement de l'activité principale, et les plateaux techniques, sites distincts, mais il faut tout de même solliciter une autorisation du conseil départemental et respecter les règles, pas de plaque, pas de ligne téléphonique distincte de celle du cabinet et pas d'utilisation pour les consultations préopératoires. La prohibition de la publicité. Un praticien qui s'installe n'a pas le droit de faire de la publicité, seulement de faire passer un communiqué dans la presse locale, d'apposer sa plaque et d'ouvrir un site internet présentant son cabinet. Les communiqués. Le projet de communiqué annonçant ouverture, fermeture, transfert d'un cabinet, intégration ou départ d'un associé doit être soumis au Conseil départemental de l'ordre dont l'autorisation est impérative. La rédaction ne doit pas être publicitaire, la présentation doit être sobre et le nombre de parutions faible. Le site internet du chirurgien dentiste. Il doit respecter la charte ordinale applicable au site professionnel des chirurgiens dentistes du Conseil national de l'ordre du 17 décembre 2010. Rappel des règles essentielles, présentation du site, du chirurgien dentiste ou des membres de la société d'exercice et du cabinet obéissent à des règles. La fourniture d'informations médicales ultra qualitatives, voire Fondation HealthFund.net, est autorisée. Les erreurs ou manquements les plus souvent relevés, le nom de site, son nom du praticien ou avec des formules publicitaires, les photos de mannequins interdites, le texte racoleur sont les cas de non-conformité les plus fréquents. Un praticien ne doit pas non plus apparaître de façon publicitaire sur Facebook car les amis sont des clients potentiels. les risques encourus. Selon la gravité des manquements, le conseil départemental peut formuler au praticien une demande de mise en conformité ou le déférer d'emblée devant la chambre disciplinaire. Le conseil départemental de l'ordre peut aussi solliciter une fermeture en référé devant une juridiction civile. La plaque professionnelle, elle doit être unique, de préférence du format traditionnel 25 sur 30 cm, et comporter nom, prénom, qualité, spécialité reconnue, orthopédie dentofaciale ou orthodontie, origine du diplôme, jour et heure de consultation, étage, numéro de téléphone. La plaque est informative et non publicitaire. C'est mentionné dans le dernier alinéa de l'article R4127-278. La mention centre dentaire est considérée comme publicitaire. Chaque praticien dans une SPC ou société d'exercice libéral peut avoir sa plaque. La demande d'une seconde plaque. L'autorisation doit être demandée au conseil départemental. En cas de non-respect, des sanctions disciplinaires sont à craindre et on ne pourra arguer que tout le monde le fait. Le cas du transfert ou de la cessation d'activité. En cas de transfert, on peut laisser son ancienne plaque en mentionnant le nouveau lieu d'activité pendant un an. En cas de cession, il faut l'enlever. L'acquéreur peut apposer sa propre plaque en mentionnant « successeur du docteur X » pendant un an également. L'exercice annexe. Exerçant à son compte, on peut tout de même continuer à exercer comme collaborateur salarié ou libéral. Le conseil départemental concerné doit être informé. Le remplacement d'un confrère n'est pas considéré comme un exercice. 4. L'exercice en groupe. Les différentes modalités de cet exercice. Contrat de collaboration ou exercice en commun sont possibles. La collaboration. Le collaborateur peut être libéral. Ce statut doit respecter la loi du 2 août 2005. Ou salarié. Ce statut doit respecter le Code du travail. Le statut du collaborateur à titre libéral. Le collaborateur libéral a le droit de constituer et se soigner sa propre patientèle au sein du cabinet du titulaire ainsi que de compléter sa formation. Les rétrocessions d'honoraires continuent d'être effectuées sur tous les patients du collaborateur sans distinction. Le Conseil de l'Ordre a édité un modèle de contrat disponible sur son site ou au siège des conseils départementaux. Sur ce contrat ne figure pas de clause de non-concurrence explicite. Le tri des patients à la résiliation du contrat reste un problème. Le statut du collaborateur à titre salarié. Il est immatriculé à la Caisse des cadres et est soumis au Code du travail, sauf personnel non statutaire de l'État et des collectivités locales, centres de santé par exemple. Il y a subordination et indemnisation non régies par la loi mais ne devant ni être excessives ni dérisoires, elles s'élèvent habituellement au cinquième ou au tiers de la rémunération brute des X derniers mois de la clause d'interdiction d'exercer. La possibilité d'avoir plusieurs collaborateurs, l'autorisation renouvelable de l'ordre national ou départemental est nécessaire. Les besoins de santé sur 3 ans, l'afflux exceptionnel de population sur 3 mois, l'état de santé du titulaire ou de l'associé sur 3 mois doivent l'exiger. Le but est d'éviter les usines à soins. Les autres modalités d'exercice en groupe. Elles reposent sur la notion de société instituée par 2 ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter, qui peut être instituée dans les cas prévus par la loi par l'acte de volonté d'une seule personne et dans laquelle les associés s'engagent à contribuer aux pertes. Article 1832 du Code civil. La société est un contrat qui fait naître un être juridique nouveau dont les clauses sont définies par des statuts. Le but est soit de partager un bénéfice réalisé en commun, soit de profiter de l'économie réalisée par la mise en commun de biens ou de services. Le partage des frais. La société civile de moyens, SCM. Juridiquement, c'est la société de coopération. Elle a pour but de faciliter l'exercice des membres par la mise en commun de moyens matériels. Chaque associé est indépendant et peut prendre un collaborateur. La SCM ne doit pas faire de bénéfices. C'est la société la plus souvent choisie. Contribution foncière des entreprises CFE et cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises CVAE sont à devoir. La répartition des charges dans une SCM. Les associés d'une SCM doivent verser sur le compte de la SCM des redevances pour les charges communes. Celles-ci sont exonérées de TVA. Les sommes versées par chacun doivent correspondre à leur part incombant dans les dépenses communes. Pour éviter les ennuis, évitez de les indexer sur le capital ou le chiffre d'affaires de chacun. Les précautions à prendre dans une SCM en cas de cohabitation entre un associé personne physique et un associé personne morale, SELARL ou SCP. SELARL ou SCP doivent informer les associés de la SCM dont elles sont membres de l'intégration de tout nouvel associé. Il y a aussi obligation corrélative d'accepter une nouvelle répartition des dépenses communes de la SCM en cas d'augmentation des charges engendrées par l'arrivée d'un nouvel associé exerçant au sein de la SELARL ou de la SCP. Comment quitter une SCM? Pour l'intégrer, il faut soit faire partie des associés fondateurs, soit acquérir des parts sociales d'une société déjà existante. Pour la quitter, cela dépend. S'il s'agit d'une cession de parts, le successeur prend la place du cédant dans la société. S'il s'agit d'un retrait, le praticien, son successeur par exemple, doit respecter l'article 1869 du Code civil, titre IX de la société. Le retrait permet d'obtenir le remboursement de ses parts. Il s'effectue sous forme de réduction du capital social réalisé par annulation des parts de l'associé qui se retire. Juridiquement, c'est un rachat de droits sociaux. Le règlement des dettes déjà exigibles de la société reste à effectuer, mais pas celui des dettes supplémentaires non encore exigibles. Le retrait n'est pas possible dans les sociétés commerciales, exemple les SELARL. Les modalités du retrait sont précisées dans les statuts. En cas de litige, pas avant, le candidat au retrait peut saisir le tribunal de grande instance. Certaines clauses des statuts peuvent être déclarées illicites. L'associé qui se retire a droit au remboursement de ses parts sociales, s'évaluant en principe par rapport au patrimoine de la société. En cas de litige, expert et tribunal de grande instance tranchent. Le contrat d'exercice professionnel à frais communs, dit EPFC. C'est un contrat de partage de frais. L'inconvénient en est la gestion, compliquée, en absence de personnalité morale. Le matériel commun est détenu en indivision. Le personnel commun employé à temps partiel par chacun des membres. Le partage des bénéfices. Les bénéfices se calculent en soustrayant les charges des produits. Ils ne peuvent se faire que dans une société dite d'exercice. La convention d'exercice adjoint. Il s'agit de mise en commun des honoraires, pratiques hybrides, floues, peu répandues et à déconseiller. Fiscalement,
Il s'agit d'une société de fait qui implique un enregistrement, une imposition sur le revenu, sur la part de bénéfice de chacun, attribuée par le contrat, dépenses personnelles déduites et un non-assujettissement à la TVA. La société civile professionnelle, SCP. Elle relève du régime fiscal des sociétés de personnes. Son résultat est déterminé au niveau de la société, mais imposé entre les mains des associés. Elle est inscrite au tableau du conseil départemental et doit être titulaire des moyens de l'exercice de la profession ainsi que du droit de présentation à la clientèle. Lors de sa fondation, les associés fondateurs doivent lui apporter soit leur cabinet dentaire respectif, soit l'argent nécessaire pour l'acquérir. S'il y a plus-value, son règlement est reporté sur option à la dissolution de la SCP. Le principal problème de cette forme d'exercice en désaffection est la répartition des bénéfices qui doit se faire en fonction de l'activité réelle de chacun et non en fonction des parts de capital. La qualité d'associé se perd par décès, invalidité, retrait volontaire ou sanctions disciplinaires. Des dispositions contraignantes sont à respecter si l'associé retrayant et la SCP elle-même n'a pas trouvé d'acquéreur. Les statuts doivent obligatoirement prévoir une période de franchise. La société en participation d'exercice libéral. Ne pouvant être créée que par des associés personnes physiques, la SCP est fiscalement neutre et permet la mise en commun des honoraires. On s'associe à l'essai, on apporte son cabinet en jouissance à la société qui existe vis-à-vis des tiers et de l'administration fiscale, mais n'a pas de personnalité morale. La SCP peut ensuite être transformée en SCP ou en SEL. La société d'exercice libéral, elle est à la mode. Les caractéristiques principales de la SEL. C'est une société civile, SELARL, CELAFA, CELCA ou CELAS, mais de forme commerciale. Le pouvoir est détenu par celui qui a le plus de parts sociales. La responsabilité de chaque associé est proportionnelle à son apport. Les comptes d'une SEL doivent être publiés chaque année au greffe du tribunal de commerce dont la SEL dépend. La constitution d'une SEALRL. La SEALRL peut être unipersonnelle ou collective. Il n'est plus obligatoire d'avoir un capital minimum, sauf cas particulier, 1 000 euros peuvent suffire. Tout type de biens mobiliers, corporels ou incorporels, peuvent être apportés. Sauf cas particulier, les apports en jouissance ou en usufruit sont possibles. La dénomination sociale est libre. Les connotations commerciales, type clinique dentaire, institut international, clinique du sourire, restant interdites. Statut de la SEL et projet de cession du cabinet à la SELARL doivent être déposés au conseil départemental de l'ordre avec demande d'inscription au tableau. L'aspect fiscal. La SEL est soumise à l'impôt sur les sociétés IS. Quand la SEL emprunte, c'est plus avantageux, mais elle se prête mal à la transmission progressive du cabinet. Le cédant doit payer l'impôt sur les plus-values à long terme. Des redressements fiscaux sont possibles. Le sort des dividendes distribués. Ils doivent entrer dans l'assiette des cotisations sociales et de retraite. Sont concernés le gérant majoritaire, le gérant appartenant à un collège de gérance majoritaire, l'associé majoritaire, même non-gérant, et l'associé unique, gérant ou non. Sept types de revenus assujettis sont visés. Le seuil d'assujettissement est de 10% du capital des primes d'émission et des sommes versées en compte courant, conjoint, partenaire pacsé, enfants mineurs non émancipés sont pris en compte. Le régime fiscal et social est particulier. de quelques idées reçues sur la SELARL. Une SELARL ne peut être propriétaire de plusieurs cabinets à la fois. L'associé non exerçant d'une SELARL ne peut être collaborateur de cette même SELARL. Une SELARL peut comprendre plusieurs associés, même minoritaires, mais un seul collaborateur. Le partage des locaux avec d'autres professions. On peut partager ces locaux avec des membres d'une autre profession de santé réglementée. Évitez cependant les vétérinaires, les spécialistes de maladies contagieuses, questions d'hygiène et de risque, les opticiens lunetiers, professions commerciales, les prothésistes dentaires, sauf s'ils sont salariés du praticien, et les professions réglementées qui ne sont pas des professions de santé. Les SCM et les professions assujetties à la TVA ne sont pas non plus possibles. En SCP et en SELARL, un chirurgien dentiste ne peut s'associer qu'avec des chirurgiens dentistes. La pluridisciplinarité n'est pas admise. Au niveau du partage des locaux, des obligations en matière de non-partage des honoraires, non-compérage, qualité des soins, sécurité, secret professionnel, indiscrétion, accès aux médicaments et produits, et bien sûr, locaux et matériels sont à respecter. 5. L'acquisition du cabinet dentaire. Pour des raisons démographiques, les vendeurs sont actuellement plus nombreux que les acquéreurs. Cependant, les cabinets se vendent toujours, le prix d'achat moyen d'un cabinet étant toujours inférieur ou égal à la construction d'un cabinet neuf, et les banques prêtent sans difficulté. S'assurer simplement du régime matrimonial du vendeur, le conjoint peut devoir donner son accord. Les modalités pratiques d'une vente. La moyenne du chiffre d'affaires annuel d'un chirurgien dentiste se situe entre 200 000 et 250 000 euros pour 3 ou 4 jours d'activité. Si le chiffre d'affaires est plus bas et que l'emplacement ne compense pas cet inconvénient, le cabinet peut être difficile à vendre. Les baux non cessibles ou l'exercice en groupe peuvent aussi compliquer la vente. En revanche, la présence de collaborateurs est un facteur favorisant. Le prix. Il n'y a pas de méthode unique pour le fixer. En général, on applique un pourcentage sur la moyenne du chiffre annuel des recettes des 3 dernières années, entre 20 et 50% selon la situation géographique et financière du cabinet. On peut aussi calculer le prix à partir de la moyenne du bénéfice imposable des dernières années, multiplié par un coefficient compris entre 0,7 et 1,3. Il faut distinguer la valeur des éléments corporels, patientèle, droit au bail, de celle du matériel, seul à pouvoir être amorti par l'acquéreur. Si le matériel est neuf au moment de l'achat, s'assurer qu'il est bel et bien payé et pas détenu par crédit bail ou leasing. Si le chiffre d'affaires a été en forte augmentation, il est possible que le vendeur ait effectué des travaux très importants chez ses patients et que son successeur n'aura que l'entretien courant, peu rémunérateur, à effectuer. Le personnel. Le sort du personnel au moment de la cession. Le praticien vendant son cabinet n'a pas le droit de licencier son personnel en raison de cette cession. L'acquéreur ne peut pas non plus le licencier immédiatement après l'achat. La rupture conventionnelle. Elle peut intervenir si l'acquéreur ne souhaite pas garder le salarié de son prédécesseur ou que le salarié ne souhaite pas travailler avec un nouvel employeur. La vérification de la qualification professionnelle des salariés repris. Attention aux assistantes dentaires qui ne sont en réalité que réceptionnistes. Les risques encourus sont graves et la faute de l'employeur inexcusable. Si le personnel ne possède pas la qualification requise, une demande de VAE, validation des acquis par l'expérience, peut être faite. La clause de non-réinstallation. Celui qui se retire doit présenter sa clientèle à son successeur et s'engager à ne plus exercer dans un certain rayon, un département et pendant un certain temps, entre 3 et 7 ans. Ces obligations doivent être prévues dans la convention par écrit. Plus le prix du cabinet est élevé, plus la clause doit être protectrice et inversement. Des sanctions sont à craindre en cas de non-respect. Dans tous les cas, le praticien qui part doit s'abstenir de détourner la clientèle de son successeur dont celui-ci doit pouvoir bénéficier sans obstacle. Les modalités de présentation à la clientèle. Elle peut prendre plusieurs formes. Le courrier au patient. Chère madame, cher monsieur, prenons bientôt ma retraite. Je vais cesser mon activité professionnelle dans mon cabinet du 32 avenue X à 75-116 Paris. Soucieux d'assurer votre suivi médical et sauf avis contraire de votre part, je remets votre dossier au docteur Jean Dupont, chirurgien dentiste, qui me succède à cette même adresse. J'apprécie les qualités morales et professionnelles du docteur Jean Dupont et je suis persuadée qu'il saura vous apporter toute l'attention nécessaire. En conséquence, je vous remercie de bien vouloir reporter sur le docteur Dupont la confiance dont vous m'avez honorée. Je vous prie de croire, chère madame, cher monsieur, en mes sentiments les meilleurs. La présentation au fauteuil. Le cédant revient physiquement au cabinet pour présenter physiquement son successeur au patient. La conclusion d'un contrat de collaboration au bénéfice du cédant. Les cessions en une seule fois sont fiscalement encouragées. Il y a aussi période de travail en commun, ce qui sécurise l'acquéreur. La promesse de vente. Elle n'est pas indispensable, mais si elle existe, elle doit être la plus détaillée possible. Elle peut être unilatérale ou réciproque, entre promettant et bénéficiaire de la promesse. Exemple de rédaction de conditions suspensives pour l'obtention d'un prêt. Que le docteur Jean X obtienne pour le 30 septembre 2011 au plus tard, afin de financer l'acquisition du cabinet dentaire du docteur Marc Y, d'un organisme bancaire ou financier, un prêt d'un montant minimum de X euros aux conditions ordinairement consenties par les organismes bancaires ou financiers intervenant habituellement dans ce genre de cession, sans que le taux offert dépasse 4,5% hors assurance, le docteur Jean X s'engage à offrir à sa banque toutes les garanties qui lui seraient demandées. Le docteur Jean X devra justifier au plus tard 2 semaines après la signature de la présente promesse de sa demande de prêt. À défaut, la condition suspensive relative au prêt sera considérée comme réalisée. Exemple de rédaction de conditions suspensives concernant l'état de santé de l'acquéreur. Que le docteur Jean X ne soit pas victime d'un accident, d'une maladie ou de tout autre événement entraînant une incapacité quelconque de nature à lui interdire d'exercer normalement et durablement sa profession. Exemple de rédaction de conditions suspensives pour l'obtention d'une dérogation administrative. Que le docteur Jean X obtienne une autorisation personnelle de l'article L631-7 du Code de la construction et de l'habitation pour utiliser les lieux à titre professionnel. L'acte de vente. Il peut être rédigé par acte authentique ou acte notarié ou par acte sous sein privé en autant d'exemplaires que de parties sur papier libre sans intervention d'un officier public. La date la plus importante n'est pas celle de la signature mais celle du transfert de propriété, souvent le premier jour de l'année, du trimestre ou du semestre. Les conséquences fiscales de la vente. Des droits d'enregistrement sont à régler au trésor public par l'acquéreur. L'imposition des plus-values. Si le vendeur cède son cabinet plus cher qu'il ne l'a acquis ou s'il l'a créé, il est redevable de l'impôt sur les plus-values, article 238 qu'en décide le Code général des impôts. Il est exonéré s'il cède à un tiers une branche complète d'activité exploitée depuis au moins 5 ans, d'une valeur inférieure ou égale à 300 000 euros. Deux régimes permettent l'exonération des plus-values. Le régime d'exonération des plus-values en cas de départ à la retraite et le régime d'exonération des plus-values réalisées par les petites entreprises, mais ils sont financièrement moins intéressants. La solidarité entre cédant et acquéreur en cas d'impôt sur le revenu est payée par le cédant. Il faut vérifier que le vendeur est bien à jour du règlement de son impôt sur le revenu avant la cession. Sinon, la solidarité entre vendeur et acquéreur primera dans le recouvrement et le prix de vente sera séquestré le temps que le trésor recouvre les sommes dues. 6. Les procédures collectives en cas de difficultés financières graves. Comme toute entreprise, le cabinet dentaire peut faire l'objet d'une procédure collective, redressement ou liquidation judiciaire par exemple. Depuis 2006, un chirurgien dentiste peut effectuer une déclaration de cessation des paiements, déposer le bilan et être l'objet de 4 procédures, une procédure amiable, la conciliation, et 3 procédures judiciaires, la sauvegarde, le redressement et la liquidation. Les procédures de conciliation et de sauvegarde. La conciliation. Le tribunal de grande instance désigner un conciliateur chargé de trouver un accord avec les créanciers. La sauvegarde. Le tribunal arrête un plan de sauvegarde, parfois sur 10 ans, qui peut étaler ou effacer les dettes. C'est toujours préférable à la fuite en avant, mauvaise solution, hélas, trop souvent choisie. Sauvegarde et redressement, dont les buts sont la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif, donnent lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation. Un redressement judiciaire peut aussi être opéré pour les débiteurs ayant cessé leur activité ou les héritiers de débiteurs en cessation de paiement et décédés. Le conseil départemental, qui est contrôleur d'office de procédures collectives, doit être informé de l'ouverture de ces procédures. Le redressement judiciaire. L'état de cessation de paiement doit être constaté. Le débiteur doit le demander dans les 45 jours suivant la cessation des paiements. En l'absence de conciliation, le redressement est ouvert à la demande du créancier, du ministère public ou d'office par le tribunal. Les effets du jugement d'ouverture. Ils sont au nombre de 3. Interdiction de payer toute créance née avant le jugement, interruption ou interdiction de toute action en justice de la part des créanciers qui doivent déclarer leur créance au passif du débiteur. 2 catégories de créances nées après le jugement d'ouverture restent cependant à payer à échéance, celles des frais de procédure et celles des biens et prestations fournies pour l'activité durant la période de procédure. Les organes de procédure. Le tribunal nomme un juge commissaire, un administrateur et un mandataire. Le conseil de l'ordre surveille la procédure. Une période d'observation. Elle dure 6 mois, renouvelable une fois. Elle a pour but d'établir un inventaire, d'élaborer un bilan économique, social et environnemental, de déterminer le patrimoine du débiteur, de régler les créances résultant des contrats de travail, d'élaborer un projet de plan et de consulter les créanciers. Le plan de redressement. Il est arrêté par le tribunal. Il désigne ses exécuteurs et mentionne les engagements pris. Si le plan réussit, il est achevé, sinon il est résolu. La liquidation judiciaire. Le redressement doit être impossible. Il est mis fin à l'activité du cabinet et les droits et biens sont cédés, globalement ou séparément. Le praticien est dépossédé de son instrument de travail. le cas particulier des SEL-ARL. Le praticien exerçant en SEL-ARL n'exerçant pas pour son propre compte, il ne peut faire l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, sauf le passif a été accumulé alors que la SEL-ARL n'existait pas. Les éventuelles conséquences disciplinaires d'une liquidation. La position de l'ordre des chirurgiens dentistes est proche de celle des avocats de Paris, sévère. Interdiction d'exercer, privation du droit de faire partie du conseil de l'ordre sont à craindre dans le cas où l'on ne réglerait pas ses créanciers sans excuse valable. 7. La fermeture du cabinet dentaire. Les patients. Il ne faut jamais cesser son activité du jour au lendemain et toujours informer ses patients. Il faut terminer les travaux et confier ses patients à des confrères consentants pour assurer la continuité des soins. Les dossiers médicaux. Dans le dossier du patient doivent figurer, selon l'ordre, les coordonnées administratives actualisées du patient, les coordonnées de son médecin traitant, une synthèse actualisée de ses antécédents médicaux et chirurgicaux, ses habitudes de vie, ses prescriptions médicamenteuses actualisées, les résultats de ses examens biologiques prescrits par le praticien, les correspondances échangées avec les autres professionnels de santé, la synthèse de l'examen clinique du patient, les résultats des examens complémentaires ayant servi à l'élaboration du diagnostic, la nature diagnostique, prévention, soins des actes réalisés, les références des produits et matériaux utilisés et laissés en bouche. Le praticien doit pouvoir retrouver à tout moment le dossier d'un ancien patient et pouvoir lui en communiquer les informations. La loi ne prévoit aucun délai de conservation dans le temps, même s'il existe des délais de prescription, 30 ans pour les soins effectués avant la loi du 4 mars 2002, 10 ans depuis. Le décès du praticien n'éteint pas sa responsabilité civile, non pénale, qui est transféré aux héritiers. En cas de difficulté de conservation des dossiers, numériques ou papier, il faut trouver une solution avec son conseil départemental. Le personnel. Le départ en retraite du praticien constitue un motif réel et sérieux de licenciement économique. Le local. Si le praticien est locataire, il doit respecter les modalités du bail. S'il est propriétaire, il doit décider s'il les loue ou s'il les vend. On peut transformer un local professionnel en logement d'habitation sans autorisation administrative. Fiscalement, si le local professionnel est amorti, il est transféré dans le patrimoine personnel et donc éventuellement taxable à l'impôt sur les plus-values immobilières. Les relations avec l'ordre. Cessation d'activité et retraite n'empêche pas d'être inscrit au tableau. Il suffit de continuer à payer sa cotisation, minorée à l'ordre. La retraite. Si l'on ne la prépare pas, les revenus risquent de baisser de 70%. Les formalités administratives vis-à-vis de la CARCDSF. Il faut informer la CARCDSF au moins 6 mois avant la cessation d'activité. Veillez à choisir une date de fin de semestre ou de trimestre et demandez une évaluation chiffrée de la pension, voire une proposition de rachat de points. Les formalités administratives vis-à-vis de l'ordre. La radiation du tableau est notifiée à l'intéressé, au Conseil national, au préfet du département, au procureur de la République, à l'autorité compétente de l'État, membre ou partie d'origine, au directeur de l'agence régionale d'hospitalisation, si le praticien exerçait dans un établissement de santé, aux organismes d'assurance maladie du régime général et autres cas. Le praticien doit avertir le conseil départemental qui transmet son dossier au conseil national. Le maintien de l'inscription au tableau de l'ordre. Il est possible, en qualité de sans-exercice, certains avantages et obligations en découlent. Les praticiens dispensant bénévolement des soins au sein d'organismes humanitaires doivent être inscrits dans le département du lieu d'exercice bénévole. En cas de radiation du tableau, on peut figurer sur une liste d'honorariat après avis du conseil départemental et accord du conseil national. Il faut avoir atteint l'âge de la retraite, demander sa radiation au tableau, être à jour de cotisation et ne pas avoir démérité déontologiquement. Mais l'on n'est plus ni électeur ni éligible et l'on ne peut plus effectuer aucune prescription. Le cumul emploi-retraite. Il y a possibilité de bénéficier des modalités du cumul emploi-retraite sans cesser son activité libérale si les pensions sont liquidées auprès des régimes de base et complémentaires ou dès l'âge minimal d'ouverture des droits sous condition de revenus. Ce régime étant aligné sur le régime de base, le cumul complet est possible. Vu la modicité des pensions de retraite, c'est intéressant. La maladie ou l'accident, la couverture de l'arrêt de travail. Les trois premiers mois n'étant pas indemnisés, l'indemnisation ne commençant qu'au 91e jour d'arrêt de travail, il faut souscrire une assurance complémentaire. Les indemnités journalières n'excèdent pas 36 mois, consécutifs ou non. Au-delà de ce délai, la CARCDSF soumet le praticien à un examen médical qui détermine s'il est mis en invalidité ou en retraite au titre de l'inaptitude. Le praticien peut refuser, puis exercer des recours. Le tribunal compétent est celui de la région du département du praticien. Les recours des décisions qu'il prend peuvent faire l'objet de recours à formuler devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail. Les décisions de cette Cour peuvent elles-mêmes faire l'objet de recours pour voie en cassation. Après reconnaissance de l'invalidité ou de l'inaptitude, le praticien a 6 mois pour céder ou fermer son cabinet et en informer le Conseil de l'Ordre. Le remplacement. Il obéit à certaines règles. Le remplaçant n'a pas été choisi par le patient et les praticiens ne sont pas interchangeables. Un contrat doit être établi entre le remplaçant et le remplacé et le Conseil de l'Ordre doit être informé. Le remplacement par un confrère, salarié ou non, ne nécessite aucune autorisation de l'ordre et n'est pas limité dans le temps. Il n'y a pas de mode de rémunération obligatoire. Par rapport à la collaboration, le flux financier est inversé, le remplacé reçoit des honoraires et effectue une rétrocession au remplaçant. Le patient libelle ses chèques au nom du remplacé. Sur les ordonnances, le nom du remplacé est barré et remplacé par celui du remplaçant. Le remplacement par un étudiant nécessite une autorisation. L'étudiant doit fournir plusieurs pièces au conseil départemental. Il est conseillé d'embaucher l'étudiant comme salarié et non comme libéral. Le remplacé est civilement responsable des sinistres professionnels causés par son remplaçant salarié. Le remplacement partiel, 1 ou 2 jours par semaine par exemple, est abrogé depuis 2009. Le décès. La CARCDSF accorde des garanties aux conjoints jusqu'à ses 65 ans et aux enfants, mais ces garanties sont insuffisantes. Les précautions à prendre. De son vivant, il faut se constituer des revenus complémentaires. Après le décès, les droits et obligations sont transmis aux héritiers s'ils acceptent l'héritage qui doivent procéder au licenciement économique, sauf si le praticien exerçait en SCM, SCP ou SELARL. Les mesures urgentes. Les héritiers doivent chercher un praticien qui accepte d'exercer au cabinet du défunt jusqu'à la vente du dit cabinet. Le but est de sauvegarder la clientèle. La redevance versée aux héritiers doit être forfaitaire. La plaque du praticien décédé doit subsister.